Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici la douloureuse histoire d'un petit Camerounais, Cyril, que son oncle et sa tante qui vivent en France font venir chez nous quand il a 6 ans, et à qui ils vont faire vivre le martyr. Entre autres punitions, ils lui mettent de la purée de piment dans les yeux, au point qu'aujourd'hui, il est aveugle. J'ai tiré cette histoire du livre que Cyril a écrit et auto-édité sous le nom de Mason Ewing, « Les yeux du destin ». Je l'ai écrit avec l'aide de Simon Veil, la réalisation est de Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Je suis né au Cameroun, à Douala. Ma maman, Marie, est morte quand j'avais presque 4 ans. Et après, c'est mon arrière-grand-mère, Élise, qui m'a élevé. Une merveilleuse femme, très douce. Je me souviens qu'à Douala, on habitait une petite maison. Je dormais avec mon arrière-grand-mère dans un grand lit entouré d'une moustiquaire. Et j'allais à l'école à pied, tout seul, avec mes petites tennis blanches qu'Élise m'avait achetées. Le soleil éclairait mon visage. J'étais heureux. Oui, ça a été le moment le plus heureux de mon enfance. Quel dommage que ce bonheur n'ait été que de courte durée. Et puis un jour, vers mes 6 ans, Élise dit qu'elle se fait trop vieille. Et une dame très élégante, Jeannette, une de mes tantes, arrive de France pour me chercher. Moi, je vais vivre en France, je suis content. Et puis prendre l'avion, c'est un peu comme aller au ciel, c'est un peu comme retrouver ma maman. On est naïf quand on est gamin. Ouais, on est naïf. Je me souviens, cette Jeannette arrive en taxi. Nous, on l'attend. La porte du taxi s'ouvre, une femme en sort de toute beauté. Une créature digne d'Hollywood. Grande, élancée, très claire, vêtue d'un tailleur blanc et noir, avec un chapeau assorti à ses chaussures et à son sac à main. Sublime, comme une actrice de série télé des Blancs. Mon petit Cyril, je t'ai porté des beaux habits de France. Je suis tout fier. On fête Noël tous ensemble, toute la famille. Et puis arrive début janvier. Et il est temps de dire au revoir à mon amour d'arrière-grand-mère. Je me demande d'ailleurs aujourd'hui comment Élise a accepté que je parte. Je lui en veux pas, hein. Je suis sûr qu'elle a cru bien faire. Je me souviens, on prend l'avion à un vol d'Air France. Je ne suis pas habitué à la nourriture française. Alors je commence par vomir. Et quand on descend de l'avion à Paris, le froid et autour tout blanc, de la neige partout. Ça fait 27 ans que je suis en France, je n'ai toujours pas réussi à aimer la neige. Le mari de ma tante, Lucien, nous attend. On monte dans un taxi.
Vas-y le roi, s'il vous plaît. Rue Chevreuil.
Et on arrive dans un petit appartement au rez-de-chaussée. Une seule pièce en vérité, qui fait salon, cuisine et chambre. Et après des toilettes dans la salle de bain. Et c'est tout. Et en plus de mon oncle et de ma tante, et de moi désormais, il y a une petite fille de 9 ans qui vit là.
Elle s'appelle Anne-Karine, hein? C'est la nièce de ton oncle Lucien. Ton oncle que d'ailleurs, désormais, tu vas appeler papa, hein?
Elle est arrivée 2 ans avant moi, du Cameroun elle aussi. En tout cas, je suis content hein, qu'il y ait un autre enfant. Parce que cet homme-là que je dois appeler papa, il m'inspire pas beaucoup confiance. Et à ce moment-là, j'ai un petit pincement au cœur, quoi. J'ai une envie folle de revoir mon Élise d'amour. Je vais bientôt la retrouver, ma mamie.
Arrête de pleurer, sinon tu vas avoir une fessée.
Et elle me gifle. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus pleuré, hein. Mais mon cœur a continué à pleurer. Ils m'ont mis en CP, dans la même école qu'Anne-Karine. Et je me suis fait un copain, c'est mon premier copain blanc, Christophe. Je vais jouer avec lui. Un soir, on rentre de l'école.
Au revoir Christophe, à demain.
On fait nos devoirs jusqu'à l'arrivée de mon oncle. On passe à table.
Cyril, tu peux aller chercher de l'eau ?
Je vais dans la salle de bain, je vois une bouteille pas entièrement vide, je rajoute de l'eau du robinet. Et de retour dans la pièce, je l'attends à une amie qui est là, Pauline. Et elle boit. Et elle commence à se sentir très mal. C'était de l'eau de Javel qu'il y avait dans la bouteille. Mais moi, comment je pouvais le savoir ?
Mais t'es qu'un vaurien, hein ?
Et là, ma tante me traîne dans la salle de bain. Elle prend ma tête et elle la cogne sur le bord de la fenêtre. Bim ! Bim ! Et elle finit à coups de ceinture, jusqu'à épuisement. Et moi, je hurle. Pardon ! Pardon ! Et là, elle me dit de me mettre à genoux, bras tendus. Et dans la paume de mes mains, elle pose deux grosses pierres. Et si mes bras s'affaissent, bam !
Et maintenant, va te coucher.
Au lit, j'ai pensé à ma mamie, en Afrique. J'ai pleuré. Elle me manque beaucoup. Le soir, après l'école, Anne-Karine et moi, on est censé faire le ménage. Et après, nos devoirs. Un soir, ma tante rentre un peu plus tôt que prévu, vers 6 heures.
Ah ! J'ai bien envie de boire une bière, moi. Allez m'acheter une bière à l'épicerie.
Je mets mon anorak, ma cagoule, mes gants. On part à pied tous les deux, avec Anne-Karine. On arrive à l'épicerie, on trouve les 1664. Et en allant vers la caisse, Anne-Karine me chuchote.
Je crois que je vais voler des bonbons.
Et elle le fait. Et quand on arrive à la caisse...
Je vous ai vu, hein ? Vous avez volé des bonbons. C'est pas bien de voler. Je pourrais appeler la police. Sors-les de la poche. Voilà. Bon, ben, je vais vous les faire payer, puis c'est tout.
Et il prend l'argent des bonbons sur le billet de ma tante. Et nous, comment on va justifier la différence ? Elle va voir qu'il manque de l'argent, forcément. On arrive à la maison. Elle compte la monnaie.
Il manque de l'argent, là ?
Eh ben, je sais pas, c'est l'argent qu'il nous a rendu.
Un neveu de mon oncle est là, Achille.
Achille, tu retournes avec eux à l'épicerie. Et tu demandes des explications à l'épicier. Mais voler des enfants, quelle honte !
Et l'épicier dit à Achille qu'on a volé des bonbons. Et Achille le répète à mon oncle et ma tante. Elle se lève.
Mais pourquoi donc je t'ai emmené en France ? T'es la honte de la famille !
Mon oncle se lève à son tour. Il enlève sa ceinture. Et il commence à nous frapper.
Flap ! Flap ! Flap !
J'en ai le corps qui brûle. Et après, ma tante nous amène dans la salle de bain. Et au passage, elle attrape un gros pot dans le frigo.
Je sais ce que c'est, hein ?
C'est le pot à piment. Piment rouge, plus oignons, plus ail, plus tout un tas de condiments africains.
Il n'y a rien de plus fort.
Elle pose le pot sur le lavabo.
Ouvre les yeux.
Et avec une petite cuillère,
elle me verse de la purée de piment dans les yeux. Et je hurle. Je lui demande pardon. Je lui promets que je recommencerai pas. Mais pendant des heures, elle m'empêche d'aller me rincer. Et quand enfin je vais me passer de l'eau froide, ça brûle. J'ai 6 ans et demi. Ces gens ne sont que méchanceté.
Un jour, on déménage à Pontocombo, en Seine-et-Marne, pour un appartement plus grand avec 2 grandes chambres et un grand salon. Ma tante Jeannette, je vous l'ai pas dit ça. Ma tante Jeannette est témoin de Jéhovah. Mon oncle non, hein, il dit que c'est des bêtises. Mais elle nous emmène une fois par semaine pour des études du livre, comme ils disent. Moi j'aime bien. Les gens sont gentils là-bas. Et elle prend sa petite voix mielleuse, elle sourit, elle est toute douce. Ils savent pas que chez elle, c'est un démon, qu'elle nous fait vivre l'enfer. Depuis qu'on est à Pontocombo, je me suis remis à faire pipi au lit. J'ai 7 ans. Un matin, elle entre dans la chambre et elle sent tout de suite l'odeur.
Ça sent le pipi, sinon ?
Elle m'emmène dans la salle de bain Et elle va chercher la purée de piment. Et elle m'en remet dans les yeux. Et après, sur le sexe. Maintenant, le soir, je ne bois plus, hein, pour ne pas faire pipi au lit. Un soir après l'école, une fois le ménage et nos devoirs terminés, on va regarder la télé en cachette. Et ma tante Jeannette rentre plus tôt que prévu. Et elle nous trouve devant la télé.
Vous me prenez pour une conne, hein ? Allez dans le couloir !
Et là, elle nous fait mettre à genoux. Et elle nous met à chacun deux grosses pierres dans les mains, bras tendus. Et elle retourne dans la cuisine préparée à manger en écoutant de la musique africaine. Et de temps en temps, elle revient par surprise. Et si on a baissé les bras, bam ! Un coup de spatule sur chaque bras. On a dû rester comme ça une heure et demie, peut-être deux. Quand mon oncle est rentré, elle lui a expliqué pour la télé. Ils nous ont privés de dîner. Et quand eux, ils ont fini de manger...
Vous venez ranger, hein ? Et faire la vaisselle.
En 1991, j'ai 9 ans. Et Anne-Karine et moi, on fait une grosse bêtise. On n'a pas le droit d'aller chez les copains après l'école. Dans notre immeuble, on a deux copines de classe, Nathalie et Karine. Plusieurs fois, les parents nous ont invités.
Mais venez jouer à la maison, après l'école.
On a toujours dit non. Mais deux, trois fois, on a dit oui. C'est bien chez eux. Il y a des jouets. C'est des poupées, mais je m'en fiche. Nous, on n'a pas de jouets. Et puis un jour, Anne-Karine oublie son cartable chez eux. Et on s'en aperçoit au moment de nous mettre au devoir. Alors elle court les chercher chez la voisine, mais mon oncle rentre avant qu'elle ne revienne.
Elle est où ?
Et il va la chercher chez eux.
Bonjour, je viens chercher ma nièce.
Quand elle l'a entendue, elle a sauté par le balcon. Heureusement qu'elle s'est pas fait mal. Et après, elle a disparu jusqu'à 23 heures. Et là, le téléphone a sonné.
Bonsoir, monsieur. C'est le commissariat de Pontecombo à l'appareil. Nous avons retrouvé votre nièce de 11 ans. Elle marchait sur une route à 20 km d'ici, à peu près.
Ils l'ont battue jusqu'à l'épuisement. Et le lendemain, j'ai appris qu'ils avaient décidé de la renvoyer au Cameroun. La semaine prochaine. Et moi, je me retrouve seul. Seul, sans personne à qui parler et avec qui jouer. Comme je fais toujours pipi au lit, ils me font dormir par terre. J'ai 9 ans et je n'attends plus qu'une chose, la mort. Je vais pas survivre. Tous les soirs, quand je me couche, je me dis, est-ce que je vais me réveiller ? Est-ce que c'est mon dernier soir ? Quelques mois plus tard, ma tante annonce qu'elle se rend au Cameroun.
Je pars ! Je pars pour ramener ma mère.
Sa mère ? Autrement dit, mon arrière-grand-mère, Élise, elle va venir en France. Je suis sauvé. En attendant, ma tante part presque 5 mois. Et mon oncle en profite. Il fait venir une autre femme à la maison.
Tu l'appelleras tante Lucie.
Elle est gentille. Elle est souriante, mais... En vérité, mon calvaire empire. D'abord, mon oncle me retire de l'école. Et puis tous les deux, ils partent. 2, 3, 4 jours, quelquefois une semaine. Et dans ce cas-là, mon oncle m'enferme dans ma chambre. Avec à peine de quoi manger et des bouteilles d'eau. Et pour faire mes besoins, un pot sur le balcon. Pour faire pipi, j'ai trouvé une astuce. Je le fais dans un petit trou d'évacuation des seaux de pluie. Mais au moins pendant ce temps-là, il me frappe pas. Et puis un jour, ma tante rentre du Cameroun. C'est bizarre, hein ? Elle me maltraite. Mais je suis quand même content qu'elle rentre. Au moins, je serai plus enfermé dans cette chambre et je pourrai manger tous les jours. Et quand elle rentre, Elle découvre que mon oncle m'a retiré de l'école. Alors elle veut me réinscrire en CM2. La directrice de mon école lui dit que je suis surdoué. Alors elle m'inscrit directement en 6e, à 10 ans, au collège Condorcet. Ou, quand on me demande ce que je veux faire plus tard, je réponds « Moi, je veux être producteur de cinéma. » Les autres se moquent de moi. Ils disent que je suis un rêveur. Et puis un samedi, ma merveilleuse Élise arrive. Cette arrière-grand-mère que j'ai pleurée pendant 4 ans, que j'ai appelée tant de fois dans mes rêves. Elle est là. Elle est face à moi. Je la prends dans mes bras. Oh, je suis tellement bien. Je me dis, tout va enfin s'arrêter. Mais j'ai parlé trop vite. Je n'ai eu que quelques semaines de répit. Élise n'a pas su recadrer sa fille. À 11 ans, je suis en 5e maintenant. Et je commence à me rebeller. Si on me cherche, je me bagarre. Un jour, un Ludovic me traite de fils de pute. Pam, je lui en mets une. Et je me retrouve dans le bureau de la directrice.
Bon, dis-moi, Cyril. Je voudrais rencontrer ton oncle et ta tante, hein? Je vais les faire venir.
Je la supplie de ne pas le faire. Je suis paniqué. Et pourtant, elle les appelle. Et le soir, je rentre. Je suis stressé, hein. Ma tante me roue de coups pendant des heures dans la salle de bain. Mon arrière-grand-mère veut intervenir.
Te mêle pas de ça, la vieille.
Je l'ai hais. On ne parle pas comme ça à Élise. J'ai décidé de fuguer. Avec un copain, Jean-François, qui est dans un foyer. Je vais aller avec lui à Paris. Je monte dans le train. Je me retrouve à la gare de l'Est, à Paris. Je suis libre. Je dis au revoir à Jean-François et je me mets à marcher dans Paris. J'ai un peu peur, hein. Mais je suis heureux. Je suis libre. Et je marche jusqu'à la nuit. Et puis un moment, je rentre dans une cabine et je fais le 17. La police.
Allô? Voilà, je suis perdu, je veux pas rentrer chez moi. J'ai peur de mon oncle et de ma tante.
Ils viennent me chercher. Ils m'emmènent à la brigade des mineurs. Je rencontre un gentil monsieur qui me demande pourquoi je ne veux pas rentrer chez moi. Je lui raconte tout.
Ben, ils me mettent du piment dans les yeux. Et dans le sexe aussi, pour me punir. Et puis, ils me mettent à genoux pendant des heures aussi. Et puis, ils me privent de manger.
Ils me mettent dans un foyer d'urgence, dans le 15e arrondissement. Je me dis, ouf, c'est fini.
Je suis naïf, hein.
Le lendemain, je me retrouve face au directeur du foyer.
J'ai lu tout ce que tu as dit à la brigade des mineurs. J'avoue que je sais pas quoi en penser. Tu peux tout me raconter, à nouveau?
Je lui répète, tout. Ça dure 3 ou 4 heures. Et le lendemain, le directeur me fait revenir dans son bureau. Et là, la porte s'ouvre. Et qui je vois rentrer?
Ma tante. Quand je la vois, je veux m'enfuir. Un éducateur me rattrape.
Et elle, dans le bureau, toute mielleuse, toute gentille. Elle jure qu'elle n'a pas pu me faire de mal, qu'elle ne comprend pas pourquoi je dis des mensonges et que sans doute j'ai de mauvaises fréquentations. Et ce crétin de directeur et ses éducateurs avalent son baratin. Et je repars avec elle. Quand on arrive à l'appartement, mon oncle m'attend de pied ferme. Je n'ai jamais vu autant de haine dans ses yeux. Et ils me battent comme jamais. Ma tante m'agenouille dans le salon, elle me colle un dictionnaire dans chaque main, bras tendus, et à chaque fois que je baisse les bras, bim! Un coup de ceinture. Mon arrière-grand-mère les supplie d'arrêter, elle pleure. Et ils me fouettent comme ça presque toute la nuit. Et quand je n'ai plus de force, ils me laissent dormir dans le couloir. Des fugues, j'en ai fait d'autres. Et à chaque fois, je suis allé voir la police, j'ai encore tout raconté. Ils m'ont mis dans le même foyer, ou dans un autre, et une fois dans un hôpital psychiatrique, et une autre fois dans une famille d'accueil. Mais à la fin, la DAS a toujours fini par appeler ma tante. Bravo, cet organisme est censé protéger les enfants. J'ai souvent mal à la tête. Les piments qu'ils m'ont mis pendant des années ont laissé des séquelles. J'ai souvent mal aux yeux. Les yeux me brûlent. Et à peu près vers mes 14 ans, je suis placé dans un foyer près de Melun. Il est 5 heures de l'après-midi, la nuit commence à tomber. Et d'un coup, je me sens pas bien. Crise d'épilepsie, je suis dans le noir. Je passe 3 semaines dans le coma. Et quand je me réveille...
Pourquoi je vois rien? J'ai perdu la vue. Je suis aveugle pour toujours. Je ne veux plus qu'une chose. Je veux mourir. Et d'ailleurs, je retombe dans le coma.
À mon réveil, l'aide sociale à l'enfance, la DAS, a laissé mon oncle et ma tante venir me voir. Et vous savez ce que m'a dit mon oncle ?
Ah ben c'est bien fait que t'aies perdu la vue. T'as eu ce que tu méritais. Au moins ça t'évitera de faire des fugues.
Et ils se sont mis à rire, tous les deux. À rire. Un jour en 2010, j'avais 28 ans, je suis retourné voir ma tante. J'y suis allé avec un copain, Raphaël. J'ai sonné, elle m'a ouvert. On a parlé comme si de rien n'était. Elle avait oublié qu'elle m'avait maltraité, que si j'étais aveugle, c'était à cause d'elle et de son mari. On s'est revus 2 fois. Une fois c'était à Noël, c'est elle qui m'a invité. Je l'aime pas, hein, mais ce Noël était sympathique. On aurait dit une famille modèle. Elle ne me faisait plus peur. Alors je lui ai demandé pourquoi elle m'avait fait tout ça. Elle m'a dit que c'était par amour. J'ai gardé mon calme. Je lui ai demandé si elle regrettait. Elle m'a répondu que non. Qu'en perdant la vue, j'avais eu ce que je méritais. Je vous le jure, hein. Il n'y a pas eu un seul pardon. Il n'y a pas eu un seul regret. Un jour, elle m'a téléphoné pour me demander si j'avais pas du travail pour elle. Et une autre fois... C'était pour m'annoncer la mort de mon arrière-grand-mère. Elle m'a demandé de l'argent pour que je participe à l'enterrement. J'ai donné, hein. Et qu'est-ce que j'ai pleuré? Qu'est-ce que je l'aimais?
J'ai tiré ce récit du livre de Mason Ewing chez Ewing Publications, Les yeux du destin.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.